Onde durable.
La santé des sols.
Une série pour comprendre les enjeux autour de la sauvegarde, la sensibilisation et la renaturation des sols.
Bonjour à toutes et à tous. Ils sont notre principale source d'alimentation, une ressource vitale mais menacée. 62% des sols européens sont dégradés. Pourquoi et comment y remédier ? Quel est le rôle de l'agriculture dans la préservation des sols ? Nous en discuterons dans quelques minutes avec Jacques Thomas, dirigeant d'un groupe de sociétés coopératives dans le domaine de la conservation du patrimoine naturel. Il nous parlera du projet Sol Lab visant à identifier et faire connaître les pratiques agricoles favorables à la santé des sols. Mais avant, direction Cossé-le-Vivien en Mayenne, où Isabelle Rupin de Fidélité Mayenne nous fait découvrir les principes de l'agriculture de conservation des sols en compagnie de deux exploitants.
L'agriculture de conservation des sols, c'est une action volontariste menée par des agriculteurs désireux de revenir à une agriculture plus naturelle. C'est le cas ici en Mayenne, à Cossé-le-Vivien, à la Touche Guillet, où nous accueille Jackie Dubourg. Bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes éleveur porcin. Quasiment l'essentiel de vos récoltes, je crois, servent à nourrir vos cochons. La conservation des sols, c'est une pratique mise en œuvre ici il y a une vingtaine d'années, je crois, par votre père, et que vous avez accompagné et suivi. Et je crois qu'à l'époque, la volonté était de revenir à des bases plus saines, de sortir du taux phytosanitaire. Et m'avez-vous dit de revoir les vers de terre dans les champs ?
Oui, c'est ça, oui.
Benoît Saget, vous êtes également éleveur porcin ici à Cossé-le-Vivien, toujours en Mayenne, et adepte aussi de l'agriculture de conservation des sols.
Exactement. Ça fait 25 ans que je pratique cette agriculture.
Vous faites tous les deux partie du groupe des 30 000 écophytos du sud Mayenne qui existe depuis 4 ans. Et vous êtes très, très accompagné par la Chambre régionale d'agriculture des Pays de la Loire pour favoriser les échanges, les formations sur les pratiques de chacun, les réussites ou non. De quoi parle-t-on exactement quand on parle d'agriculture de conservation des sols ?
C'est toutes les techniques qu'on peut mettre en œuvre pour préserver en fait le sol. Ça repose essentiellement sur trois grands principes. C'est d'avoir le plus possible la couverture des sols, le moindre travail du sol, le moins possible, pas de retournement de sol. Et c'est également aussi une diversité dans les cultures, que ce soit par les couverts ou par les rotations des cultures.
Donc là, Jackie Dubourg, nous sommes dans votre champ. On est au mois de novembre et il est couvert de...
Alors c'est suite à un colza, donc on a gardé le colza en place et on a semé directement dedans. Double objectif, c'était donc la première chose, c'était moins de mécanisation forcément, puisque du coup on détruit pas la culture tout de suite. On la laisse en place parce que ça permet de garder le sol l'été. Ça évite de ressemer un couvert, donc ça fait un couvert vert toute l'année. Ça limite aussi un peu l'impact des limaces, puisque du coup elles mangent les feuilles en premier du colza qui est importé et le blé pousse après.
Ce blé que vous avez semé. Il y a
une quinzaine de jours là maintenant, et là comme on peut le constater, il commence à germer et à lever.
En effet. Mais alors du coup, pardon, vous n'avez pas du tout travaillé ce sol ?
La seule chose que j'ai fait, c'était à la récolte, juste après le colza, de passer un léger déchaumage sur 3-4 cm pour remettre en germination le colza qui est tombé suite au battage.
Pardon, déchaumage ça veut dire ?
C'est un travail très superficiel du sol qui peut avoir l'objectif en fait de détruire s'il y a des mauvaises herbes encore dans la culture en place. Parce que sinon le colza il peut lever de lui-même. Mais souvent ça permet de détruire les mauvaises herbes en place, mais aussi de broyer les cannes.
Et ça permet aussi de mulcher un peu la terre pour mélanger un peu la matière organique aussi et d'activer un peu la minéralisation et d'optimiser un petit peu après la repousse de tout ça.
L'objectif également aussi, c'est de gérer des fois les populations de limaces qui peuvent être très importantes dans les colzas, donc ça permet de détruire les œufs plus facilement.
Mais c'est-à-dire que par rapport à l'agriculture, on va dire traditionnelle ou conventionnelle, là où des gros engins auraient tout labouré, vous avez fait un petit passage léger, c'est ça la distinction ?
C'est juste un travail chirurgical, c'est-à-dire qu'on passe avec un disque pour semer sans bouger de terre.
Dans la conservation des sols, ce qui est important aussi, c'est ce qui se passe dans le sol, toute la diversité et des échanges.
En fait, la production de biomasse, elle passe aussi par les racines. Il y a énormément de racines qui font de la biomasse en souterrain, qui vont travailler le sol à la place des outils. Et ça va permettre aussi de créer des galeries pour faire des remontées et descentes de minéraux dans le sol.
Oui, la faune du sol, c'est énorme ce qu'on a sous nos pieds. C'est toute cette faune qui remplace le travail du sol. Mais ça ne se fait pas du jour au lendemain. On sait que nous, aujourd'hui, au bout de 20 ans sans travail du sol, ça grouille dessous. La porosité, elle se fait essentiellement par les vers de terre, mais aussi tous les micro-organismes, les bactéries. Par contre, il faut leur donner à manger tout le temps. Donc, c'est-à-dire que c'est pour ça qu'il faut toujours laisser des résidus sur le sol pour alimenter toute cette faune. Et après, c'est aussi des champignons. Et quand on parle champignons, on parle aussi souvent de mycorhizes, qui ont un rôle essentiel en fait, dans l'alimentation des plantes, que ce soit des minéraux, mais aussi l'eau. Et le problème de ces mycorhizes aujourd'hui, c'est que le travail du sol, dès qu'on va travailler le sol, ça, on détruit toutes ces mycorhizes.
Il faut bien aussi parler des aléas climatiques. Alors, est-ce que vous subissez aussi de plein fouet cette alternance de pluies diluviennes, des périodes de sécheresse?
C'est un système où on apporte beaucoup de résilience. En fait. Face aux événements climatiques, en fait, on est beaucoup mieux bordé aujourd'hui qu'en système conventionnel. C'est-à-dire que l'érosion, on ne connaît quasiment pas. Les excès de chaleur, bon, on n'a pas le choix, on y fait face. Mais après, on a un sol qui stocke un peu mieux l'eau, donc on s'affranchit un peu mieux de ces problèmes-là. Les excès d'eau, c'est pareil, parce qu'en fait, on a un sol qui est beaucoup mieux organisé, donc on stocke beaucoup plus d'oxygène dans nos sols. Et du coup, on subit beaucoup moins violemment les événements climatiques. C'est-à-dire que dans une année normale, on ne va pas plus performant forcément qu'une agriculture conventionnelle, mais par contre dans des passages, des moments plus difficiles, là on s'en sort en général beaucoup mieux.
Jacques, on a vu donc ici dans ce champ de colza où il y aura bientôt du blé, donc ça c'est l'alternance des cultures hein.
Oui c'est ça, oui. Après un colza c'est souvent un blé, et puis après le blé une orge, et puis après l'orge un maïs, et éventuellement sur une luzerne 5 ans, et après je remets un blé, une maïs. On essaie de diversifier aussi tout ce qui est aspect adventice justement, qui soit perturbé, et pour vraiment diminuer au maximum aussi la phyto sur nos champs. Quoi.
Oui, et puis sans doute les cultures ne puissent pas exactement les mêmes réserves dans le sol, donc ça permet aussi de garder un équilibre.
Oui, complètement, parce que du coup, on travaille sur plusieurs horizons du sol. Toutes les cultures n'ont pas la même façon d'aller chercher dans le sol les éléments et n'ont pas non plus la même façon de capter le carbone de l'air pour le remettre dans le sol. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut travailler absolument.
La rotation, c'est un principe que vous appliquez également pour le couvert, hein, je crois, Benoît Saget.
On essaye de faire un mix au moins de 3-4 plantes avec des couvertures différentes et des enracinements différents afin d'avoir une complémentarité.
Il faut tendre vers un couvert permanent et composé avec les nouvelles plantes aussi qui vont pousser avec le changement climatique.
On voit que c'est vraiment une expérimentation de tous les jours, en fait.
C'est quelque chose qu'on a découvert au fil des années, oui. Donc on corrige, on tire, voilà.
Et parce qu'il faut bien aussi parler de retombées économiques, en fait, ou de coûts de l'utilisation de ces techniques. Qu'est-ce que vous diriez, vous, que financièrement, c'est plutôt positif, Jacques Hidour?
Le retour, pour moi, il est très positif. On passe quand même beaucoup moins de temps dans nos champs à mécaniquement. Après, c'est énormément de temps d'observation pour justement intervenir au bon moment. Après, au niveau du rendement, on a une régularité de rendement plutôt qu'un des excès d'un coup, on va avoir un rendement très très élevé ou alors une catastrophe l'année d'après. Là, c'est plutôt une régularité de rendement. Donc,
la grosse économie là, qui est très rapide, c'est le matériel. Moi, j'avais fait le choix de basculer assez vite. Et puis, moi, il y a eu également l'aide de la CUMA qui nous a permis aussi d'avoir une offre de matériel adaptée et puis d'investir aussi dans du matériel qui est spécifique, qui, pour le coup, coûte assez cher quand même, donc qui nécessite, nous, d'investir en groupe puisqu'on n'est pas des structures suffisamment grandes. Mais non, la première économie, elle est surtout la mécanisation, elle est relativement importante, que ce soit au niveau du fuel, et puis au niveau après des heures de tracteur. Après, comme disait Jackie, sur les rendements des cultures, je dirais que c'est un peu moins évident, notamment le blé, qui est une culture qui n'est pas très exigeante en termes de structure de sol. Donc on ne voit pas forcément des grosses différences. Par contre, dès lors qu'on commence à aller prendre des plantes un peu plus spécifiques, comme des légumineuses par exemple, là on s'aperçoit l'effet très bénéfique des structures, des sols très bien structurés. Le maïs également, il ne faut pas non plus se focaliser sur le rendement. C'est une composante importante dans la rentabilité, mais c'est... Il y en a bien d'autres avant qui peuvent jouer sur cet aspect économique, rentabilité.
Ouais, c'est ça, mais il y a un rapport finalement investissement en temps ou en finance, etc. Voilà, et puis,
faut surtout pas hésiter à passer du temps, un peu plus au départ parce qu'il faut se faire la main. Au fil du temps, je passe aujourd'hui beaucoup moins de temps que j'ai pu le faire. Mais au début, on observe beaucoup de choses et puis c'est vrai, et puis c'est intéressant aussi parce qu'on n'est pas... On découvre des nouvelles choses et on en découvre tout le temps. On n'est jamais dans la routine non plus, donc et on essaye toujours d'améliorer aussi notre système.
Bien, ben merci beaucoup. Merci à vous, Jacques Dubourg, de l'exploitation La Touche Guillet à Cossé-le-Vivien, et Benoît Saget de
Montsieur-Neuf.
à Cossé-le-Vivien aussi, en Mayenne. Merci de ce partage d'expérience sur vos pratiques vertueuses de conservation des sols, hein, ces échanges dont vous êtes coutumier, finalement en faisant partie du groupe 30 000 Ecophyto qui favorise donc justement ces retours d'expérience, hein, et ou même parfois d'expérimentation grâce au soutien de la Chambre d'agriculture régionale.
Merci.
Merci.
Voilà pour ce reportage d'Isabelle Rupin de Fidélité Mayenne. Nous prolongeons maintenant la réflexion avec Jacques Thomas, directeur du groupe EWA, de société coopérative dans le domaine de la conservation du patrimoine naturel. Il travaille sur le projet Sol Lab, sur la qualité des sols avec le monde agricole.
Bonjour, je suis donc Jacques Thomas, je dirige un groupe de sociétés coopératives qui s'appelle le groupe EWA. Et ce sont des entreprises qui travaillent dans le domaine de la conservation du patrimoine naturel, et notamment des sols.
Et vous avez un projet sur la préservation des sols agricoles dont vous allez nous parler. Mais d'abord, en guise d'introduction, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu quels sont les enjeux autour des sols agricoles en France ?
Alors, en France et à travers le monde, les enjeux, c'est que ce sont... les sols agricoles qui nous nourrissent. Sans sol agricole et sans sol d'une manière générale, l'humanité ne pourrait pas du tout vivre. Donc les enjeux liés à la conservation des sols, c'est le fait que les sols sont notre principale source d'alimentation. Plus de 80-90% des ressources alimentaires des humains viennent des sols. Un récent rapport de la Commission européenne nous a montré qu'une grande majorité de ces sols sont en mauvais état. Au moins l'une ou l'autre des fonctions qui sont attribuées au sol sont dégradées. Donc les enjeux, c'est bien de maintenir l'état de santé de ces sols et d'aider les gens qui, les agriculteurs hein, qui utilisent ces sols, de bien maintenir et de restaurer même les fonctions liées au sol.
Les sols sont dégradés à cause des pratiques agricoles ?
Notamment à cause des pratiques agricoles, notamment à cause de toutes les pollutions qu'on peut apporter sur les sols, les eaux chargées de polluants, l'air dans lequel on émet tout un tas de molécules. Il n'y a pas que les travaux agricoles qui apportent une dégradation, mais il y a toute l'activité humaine, en fait, qui est mal contrôlée et qui, un jour ou l'autre, retourne au sol. Ce qu'il faut savoir sur les sols, c'est que c'est le point central de tous les mouvements de matière à travers sur la planète. Les matières organiques, les végétaux qui poussent sur les sols vont former des végétaux morts qui vont se dégrader en surface des sols. La dégradation, notamment par les micro-organismes, va minéraliser les matières et permettre aux plantes à nouveau de puiser ces sels minéraux et à nouveau de pousser grâce à l'énergie du soleil. Et donc le sol est le point de passage obligé de ce cycle de la matière. Si le cycle de la matière est empêché dans son fonctionnement par des pollutions, par des atteintes physiques, on a toutes les fonctions qui sont liées à la régulation de ces cycles qui sont perturbées. Donc, parmi les régulations, parmi les choses qui sont perturbées, vous avez les émissions de CO2 qui vont être excessives et modifier, vous le savez, le climat. Donc le sol, en ce sens, il est utile à la fois pour l'alimentation humaine, mais pour bien d'autres équilibres, finalement, du fonctionnement de la planète. Et c'est pour ça que c'est un enjeu primordial, et c'est pour ça qu'il y a une directive cadre au niveau de l'Union européenne sur la qualité des sols qui vient d'être approuvée par la Commission.
Et vous travaillez donc avec l'ADEME sur un projet qui s'appelle Sol Lab. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit ?
Depuis plusieurs années, différents partenaires avec qui on travaille, des institutions de recherche, des ONG, animent des programmes de sciences et recherches participatives sur la qualité des sols avec le monde agricole. Et on s'est dit il y a quelque temps qu'il était utile de faire profiter des acquis de notre expérience autour de ces programmes d'autres personnes qui allaient mener des programmes de sciences et recherches participatives avec les agriculteurs. Du coup, on a créé ce programme Soilab, qui est un programme qui est financé par l'ADEME et qui, en 3 ans, va permettre de compiler l'essentiel des ressources et des expériences issues des programmes pionniers qui se sont passés depuis 15-20 ans en France. Donc, le but de Soilab, c'est d'auditionner les gens qui ont mené ce genre de programme, de leur faire parler de leurs contraintes et des avantages de leur programme, des difficultés qu'ils ont eues à mettre en œuvre et des recettes qu'ils ont réussi à trouver pour améliorer la collaboration entre le monde de la recherche et les agriculteurs, qui eux-mêmes sont des partenaires actifs dans l'étude des indicateurs de bonne santé des sols. Et du coup, ce programme va permettre de publier tout un tas d'informations utiles pour des gens qui voudraient monter des projets à nouveau. Et un autre volet de ce programme, c'est d'améliorer les protocoles scientifiques pour mesurer les indicateurs de bonne santé du sol au champ. Que ça soit abordable d'une façon assez simple, à la fois par des équipes de recherche, mais aussi par les agriculteurs eux-mêmes. Donc on est en train de travailler sur l'amélioration de certains de ces protocoles l'amélioration d'instruments pour pouvoir mesurer facilement et à bas coût ce genre d'instruments, d'indicateurs, pardon.
Quelles sont aujourd'hui les pratiques que mettent en place les agriculteurs pour améliorer la qualité de leur sol et comment justement ils mesurent cette amélioration de la qualité des sols agricoles ?
Les pratiques qui sont mises en œuvre et qui sont cherchées aujourd'hui sont des pratiques qui sont liées à ce qu'on appelle l'agroécologie. Donc être beaucoup plus soucieux du fonctionnement du sol plutôt que de ses stocks. Il y a deux façons de voir la fertilité des stocks. C'est se dire, dans un sol, il nous faut des sels minéraux pour que les plantes puissent pousser. Et donc, mesurons simplement les sels minéraux. Puis l'autre façon de faire, c'est de se dire, la chaîne qui conduit, de processus qui conduit à l'accumulation de sels minéraux dans un sol, c'est une chaîne qui est liée au vivant, notamment aux bactéries, aux champignons et aux animaux qui vont détruire les litières et les matières organiques. Et donc, intéressons-nous en fait aux indicateurs qui montrent que le vivant fait son job dans le sol pour permettre d'améliorer la fertilité des sols et de faire pousser des cultures. Donc, le grand principe, il est là. Et du coup, les indicateurs liés aux états de santé du sol, c'est une métaphore, la santé du sol. Hein. Le sol n'est pas un organisme, c'est composé à la fois d'organismes vivants, mais aussi de matières inertes, minérales et de matières mortes. Et donc, les indicateurs de santé du sol sont assez variés, puisqu'on doit toucher à tous les fonctionnements de l'écosystème. Depuis l'activité microbienne, qu'on est capable de mesurer, les microbes, quand ils travaillent dans le sol, ils émettent du CO2, comme vous et moi. On respire de l'oxygène, on émet du CO2. Et mesurer les teneurs en CO2 qui sont émises par les bactéries du sol, dans des conditions particulières en incubation, ça permet d'avoir une estimation de l'activité microbienne. On va aussi mesurer différents types de carbone qu'il y a dans le sol, qui sont autant de produits qui sont liés à la dégradation des matières organiques avant d'être minéralisées. On va mesurer la capacité d'un sol à infiltrer l'eau et à mettre l'eau en réserve et la rendre disponible pour les plantes. Voilà, tout un tas de facteurs qui, à partir souvent de pratiques, enfin de protocoles relativement simples à mettre en œuvre, vont permettre de comprendre le fonctionnement et quelquefois les dysfonctionnements, les désordres qu'il peut y avoir dans un sol. Et c'est à partir du moment où on connaît les dysfonctionnements qu'on va chercher leurs sources et rétablir par la pratique à mettre en place sur les sols des travaux beaucoup plus vertueux pour améliorer la situation.
Et là, alors, quel va être le rôle à la fois des agriculteurs et des organismes de recherche, justement, pour travailler sur ces indicateurs ?
Au travers des programmes de sciences et recherches participatifs, tout comme on appelle cela aussi pour certains des living labs, on cherche à comprendre des choses qui sont particulièrement complexes dans le milieu naturel, en tout cas dans le milieu sur les exploitations, plutôt que simplement par des expériences qui simplifient les dispositifs et que l'on peut reproduire en laboratoire. Donc c'est une façon différente de faire de la science, c'est de mesurer, d'observer les états d'un espace naturel ou d'un espace exploité en conditions réelles. Et du coup, on a besoin à la fois d'avoir le regard des chercheurs qui utilisent la méthode scientifique, la méthode expérimentale, et le regard des professionnels, praticiens de leur art, et qui ont eux-mêmes qui font eux-mêmes des observations empiriques sur l'état de santé de leur sol pour pouvoir réaliser l'exploitation et la culture des végétaux de rapport. Et donc, le fait de vouloir faire ça au champ avec le concours des agriculteurs, avec des niveaux d'implication très différents. Ça peut être juste donner son accord pour que soient expérimentés certains protocoles chez eux, jusqu'à réaliser eux-mêmes des mesures, des analyses, et travailler avec des chercheurs à l'interprétation de ces résultats. Donc le niveau d'implication peut être très très différent, mais dans tous les cas, il y a un rapprochement entre le professionnel agricole et les chercheurs pour qu'ils puissent mélanger un petit peu leur regard et avoir une meilleure connaissance des phénomènes complexes qui se passent sur leur exploitation, sur les stations, sur les parcelles qui sont étudiées.
Comment ça peut s'organiser au mieux cet échange entre les chercheurs et les agriculteurs? J'imagine qu'il y a aussi une question de temps à consacrer à ces types de projets. Donc vous, avec le projet SolLab, vous devez aussi réfléchir à la manière de mieux faire travailler chercheurs et agriculteurs ensemble pour que chacun y trouve son compte.
C'est exactement ça, en fait. Le grand problème, c'est de savoir comment parler pour les agriculteurs aux chercheurs et bien exprimer leurs besoins, et comment les chercheurs peuvent parler avec les agriculteurs pour leur expliquer la méthode scientifique, les limites et les avantages de tel ou tel protocole. Donc il y a forcément un temps d'adaptation des deux communautés pour vraiment pouvoir produire des informations intéressantes.
Et qu'est-ce que vous mettez en avant comme argument auprès des agriculteurs pour les inciter à être dans cette démarche ?
En fait, les agriculteurs qui travaillent dans ce genre de programme, en général, ils sont déjà un petit peu sensibles au fait qu'il faut qu'ils fassent des efforts ou en tout cas, il faut qu'ils comprennent mieux ce qui se passe chez eux. Les agriculteurs sont très, très attentifs aux sources éventuellement de désordre, en tout cas aux conséquences des travaux qu'ils font sur leur patrimoine, sur les sols. Il ne faut pas croire que c'est simplement des méchants qui salissent le patrimoine commun. Ils sont extrêmement réceptifs aux besoins de améliorer leurs pratiques. Ils savent très bien qu'il y a eu des excès et maintenant ils cherchent à trouver des solutions. Mais les solutions, elles ne tombent pas comme ça. Il faut d'abord les expérimenter, il faut être extrêmement prudent parce que l'agriculture, c'est une source de développement économique. Il ne faut pas que ça devienne une activité à perte au niveau de chacun de ces agriculteurs. Et donc, il faut avancer petit à petit et en connaissant bien le fonctionnement et les réactions que les sols et les cultures vont avoir en fonction des usages qui vont être pratiqués en matière agricole. Et donc, la plupart des les agriculteurs qui travaillent dans ces programmes de recherche et sciences participatives sont particulièrement curieux et inventifs, et ils ont juste besoin en fait de l'appui des connaissances scientifiques et de méthodes pour pouvoir changer leurs pratiques. Et les chercheurs eux-mêmes qui dans le monde de la recherche appliquée en agronomie essaient de trouver des alternatives aux méthodes traditionnelles d'exploitation agricole, ont besoin du retour des agriculteurs sur les modes de les techniques employées. Voilà, donc c'est vraiment un partenariat gagnant-gagnant. Mais c'est vrai qu'on le fait avec des gens qui sont volontaires. On ne peut pas faire ça avec des gens qui ne pensent pas que c'est utile de travailler dans ce sens et qui ont une autre vision de l'agriculture liée, héritée des décennies passées.
Et là, alors, où en est le projet et quelles vont être les prochaines étapes ?
Les prochaines étapes, ça va être d'auditionner une douzaine de cas de gens qui ont mené des programmes de recherche et sciences participatives pour mieux comprendre quels sont les avantages, les inconvénients, les recettes qui peuvent nous donner pour mettre en œuvre des programmes beaucoup plus efficaces et éviter de perdre du temps aux personnes qui vont réaliser de nouveaux programmes à l'avenir.
Vous venez d'écouter La santé des sols.
Une collection de reportages produites par la CORLAB, coordination des radios locales et associatives de Bretagne,
et la FRAP, Fédération des radios associatives en Pays de la Loire.
En partenariat avec l'AFES, l'Association française pour l'étude du sol, dans le cadre du projet Ondes durables.
Ces reportages sont à retrouver en ligne sur ondes-durables.fr.
Ondes durables est un projet soutenu par l'État
dans le cadre de France 2030 et du dispositif Soutenir les alternatives vertes 2,
opéré par la Banque des territoires, Caisse des dépôts.